C'est un jour particulier pour beaucoup de chrétiens dans le monde. Dans cette assemblée, c'est on dit c'est chaque dimanche Pâques. Ben oui, dimanche c'est le jour de la résurrection, mais c'était une semaine particulière pour beaucoup de chrétiens dans le monde. Et c'était une semaine particulière quand même. 148 morts dans un avion, un homme qui se suicide avec ses passagers. Pilote. On met toute sa confiance en lui et puis hop, il s'écrase avec son avion. Et puis 148 morts au Kenya, dans une université, tués un par un. Dramatique. Deux épisodes dramatiques. Cette semaine, elle a été dramatique pour beaucoup de familles. Et aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, c'est un jour pour nous que nous célébrons la vie, où nous voulons célébrer la résurrection. Peu de gens en France connaissent le sens de Pâques. C'est bizarre, mais nation chrétienne, j'ai demandé autour de moi peu de gens connaissent le sens de Pâques, je dirais nation historiquement chrétienne, on va plutôt le dire comme ça. On a perdu une partie de notre histoire. Oh, parfois, on peut revenir à Pâques en parlant de la vie après la mort, et c'était ces deux hommes qui sont dans un café en train de discuter, peut-être avec un verre de trop. Et puis il se lâche, et puis il dit, tu crois toi à la vie après la mort? L'autre il dit, oh, moi j'y crois pas. Et puis l'autre il dit, ben moi quand même un petit peu, parce que depuis que ma belle-mère est morte, ma vie a complètement changé. Je revis. Bon, je peux dire ça parce que je m'entends bien avec ma belle-mère. Je demande à ma collègue de travail. Il y a 2 jours, ce que l'on fêtait à Pâques, tu sais ce qu'on fête à Pâques, elle est médecin, et elle m'a dit, ben, pas vraiment, elle dit, je sais ce qu'on fête à Noël, les chrétiens fêtent la naissance de Jésus-Christ, mais je n'ai aucune idée de ce que les gens fêtent à Pâques, de ce que les chrétiens fêtent à Pâques. Les cloches, les œufs, je comprends pas. C'est quoi les cloches, les œufs? Et pendant que je lui expliquais que Pâques était indissociable de la croix de Christ et que celui qui fut crucifié ben, devait ressusciter le troisième jour, elle m'a regardé d'un de ses regards un peu effaré, d'un regard qui dit, tu crois à ça, toi? Et puis elle a doucement décroché de la conversation et puis elle s'est remise au travail. Et j'étais un peu stupéfait. Et c'est curieux parce que cela m'a fait repenser à quand j'étais interne, externe, c'était mon premier stage externe, je devais avoir 20-21 ans, à l'hôpital, c'était un samedi matin, la veille d'un dimanche de Pâques, et puis en faisant le tour avec le chef de clinique qui était là, et puis les internes, et puis quelques autres externes. On se met à parler du repas de Pâques, et puis quelqu'un commence à, dans la conversation, commence à dire, bah tiens, au fait, pourquoi mange-t-on de l'agneau à Pâques? Et puis bon, moi j'étais le plus jeune, le moins diplômé, je me tais, je disais rien. Et puis j'ai timidement, je dirais, attendu quelqu'un donne la réponse, mais personne ne savait pourquoi on mangeait de l'agneau à Pâques. Et je me suis retrouvé à raconter l'histoire du peuple juif délivré de l'esclavage égyptien et qu'ils avaient dû ce jour-là, la veille de leur départ, manger un agneau sache, mettre le sang sur les linteaux des portes pour les protéger de l'ange de la mort qui allait exterminer tous les premiers-nés des Égyptiens et de tous ceux qui n'avaient pas ce sang pour les protéger. et de leur dire, ben voilà, l'agneau pascal, c'est Jésus-Christ qui est venu dans ce monde pour mourir pour nous. Et c'est son sang qui nous protège. Et je voyais là le regard effaré, mais un regard pas incrédule, mais un regard disant, oh, on ne savait pas, on ne savait pas. Si je vous rappelle ces choses, c'est parce que c'est important, ça fait partie de notre patrimoine chrétien, de notre histoire. Pas seulement Jésus-Christ, mais aussi le peuple d'Israël, l'histoire en Égypte. Ça aussi, c'est notre histoire à nous. Nous sommes greffés là-dessus. Ma Pâque, c'est aussi le repas de chez ma grand-mère, Sophie, qui est maintenant décédée. Elle était cuisinière, la mère de mon père. C'était les œufs en chocolat qu'on allait chercher dans le jardin, que mon grand-père avait cachés. Et c'était un merveilleux repas de famille. Et autant que je me souvienne, il y avait toujours un absent. Et oui, il manquait toujours mon père. La mort. La mort l'avait emporté définitivement et de manière irréversible dans un accident de la route, laissant ma maman veuve et ses trois enfants à 34 ans. Et Pâques était dorénavant indissociable de souvenirs-là. Il manquerait toujours quelqu'un. La mort sur la croix, la délivrance du peuple hébreu de l'esclavage égyptien dans des circonstances cruelles qu'est la mort des premiers-nés, et même le premier-né du Pharaon, la mort de tous ceux que l'on a aimés, tout cela, la mort avec un grand M, c'est indissociable de Pâques. 148 morts en France dans un avion, 148 morts au Kenya, c'est indissociable de Pâques. Parce que si on ne pense pas à la mort, il n'y a pas d'espérance. On n'espère plus rien. Et on vit dans une société où on a caché la mort. Et si la mort n'est plus, il n'y a plus de raison pour Pâques. Mais nous savons ici que la mort est bien présente. Et vous l'avez tous ressenti dans votre chair, lorsque des parents, des amis sont autour de vous. Le texte de notre évangile ce matin est dans Jean, chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Et se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. C'est dimanche matin aussi pour Marie-Madeleine. Elle se rendit au tombeau alors qu'il faisait encore nuit pour embaumer le corps du Christ. Et l'évangile de Marc nous dit qu'elles étaient plusieurs et qu'elles firent les préparatifs le samedi soir après le sabbat. L'idée de la résurrection ne les avait même pas effleurées. Elles s'apprêtaient pour l'embaumer. Et d'ailleurs, il en sera de même pour tous les autres disciples. Jean ne nous parle que de Marie de Magdala parce que c'est à elle que Jésus ressuscité est apparu en premier. Et des compagnons de Jésus, probablement cette femme, elle est la plus loyale. Parce que Elle fut la dernière à quitter la croix et puis la première au tombeau. Elle est la première évangéliste dans le sens où elle est la première qui va annoncer la bonne nouvelle du tombeau vide aux disciples. Et le tombeau de Jésus est ouvert. La grosse pierre qui devait peser 1 à 2 tonnes a été roulée et le corps de Jésus a disparu. Et les femmes sont perplexes. Matthieu et Marc racontent que 2 anges leur apparurent. Et comme pour l'annonciation de la naissance de Jésus, ce sont des anges qui annoncent la résurrection de Jésus-Christ à l'humanité. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts, leur dit-il. Matthieu et Marc nous racontent encore que les anges les ont invités à entrer dans le tombeau. Et ça devait être quelque chose de terrifiant pour elles. Pour constater que le tombeau, il est bien vide. Ils savaient qu'elles avaient besoin de voir que le tombeau était vide et de témoigner aux apôtres ensuite que le tombeau était vide. Et ce matin, on va rentrer dans ce tombeau vide et voir avec nos yeux ce fait historique auquel, en fait, de nombreuses personnes ont rendu témoignage. Jean note qu'il faisait encore sombre. Et pour Jean de dire « il fait encore sombre », quel est l'intérêt dans des paroles d'évangile de dire « il fait encore sombre » Il fait encore sombre parce que la lumière de la résurrection a troué la nuit qui était là. Et on pense évidemment au premier chapitre de l'évangile de Jean, au prologue, où qui dit « la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi ». Et au double sens du mot « saisir », qui signifie à la fois « saisir », c'est « comprendre », et puis c'est aussi arrêter. Les ténèbres n'ont pas compris la lumière. Les ténèbres n'ont pas compris la lumière parce que, comme dit Jésus également chez l'apôtre Jean, le monde est incapable d'accueillir l'esprit de vérité. Jean chapitre 14. Ou encore, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière. Jean 3, 19. Mais malgré tout, les ténèbres ne pourront pas l'arrêter au sens de l'empêcher de briller, cette lumière de Jésus, cette lumière de la résurrection. Et c'est toujours l'apôtre Jean qui nous apporte la phrase qui dit « La victoire de Christ sur la mort, soyez plein d'assurance, j'ai vaincu le monde », nous dit Jésus. Jean 16, 33. C'est Pâques aujourd'hui, frères et sœurs. C'est le dimanche de Pâques, le dimanche de la résurrection. Il faut que nous laissions la lumière de la résurrection rentrer dans nos cœurs, éclairer les ténèbres de nos existences. Peut-être qu'on a enfoui très loin des questionnements, des choses honteuses, des choses qui nous rendent perplexes dans l'existence, comme peut-être une mort, la mort d'innocents, la mort d'un être proche. De toute manière, vous savez, Jésus, il les connaît toutes, ces questions. Jésus, il les connaît toutes, il connaît tous ses péchés, toutes ces choses dans nos vies dont nous avons honte. Jésus, lui, il les connaît. Très bien. Très bien parce que c'est lui qui les a portées sur la croix pour nous. Il les connaît une à une. Même les choses qu'on se cache à soi-même, il les connaît. Donc, alors qu'il fait encore sombre, Marie de Magdala voit que la pierre a été enlevée du tombeau et que celui-ci est vide. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Il s'agit là, bien sûr, de Jean lui-même, c'est lui qui écrit. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Évidemment, les deux disciples se précipitent si j'arrive à la diapo précédente, c'est ce fameux tableau. Jean court plus vite, il est plus jeune, il arrive au tombeau, mais il n'entre pas. Il est plus jeune, donc il doit laisser au plus vieux le soin d'entrer. Et c'est Pierre qui entre le premier. Pierre entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part, à sa place. Et leur découverte se résume à cela. C'est quand même pas grand-chose, quoi. Un tombeau vide et un linceul posé là. L'un, probablement posé là en vrac, et celui qui recouvrait le visage de Jésus, bien plié. Le tombeau vide et des linges restés sur place. Mais quand Jean entre à son tour, le texte dit « C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. » Pour l'apôtre Jean, ces linges, ce sont des pièces à conviction. Ils prouvent la résurrection de Jésus. Quand Jean écrit ce texte, et depuis que Jésus était ressuscité, jusque très loin, encore dans, longtemps après que les adversaires des chrétiens ont répandu des bruits concernant Jésus et que les disciples de Jésus avaient tout simplement subtilisé son corps. Pour dire, parce que tous ont constaté que le tombeau était vide, les Romains, les Juifs, tous les adversaires de Jésus-Christ, c'était manifeste, le tombeau est vide, et il est vide aujourd'hui. Et Jean répond, si on avait pris le corps, on aurait pris les linges aussi. Et s'il était encore mort, s'il s'agissait d'un cadavre, on n'aurait évidemment pas enlevé les linges qui les recouvraient. Ces linges sont la preuve que Jésus est désormais libéré de la mort. Et ces deux linges qu'il enserrait, ben ça symbolisait la passivité de la mort, l'ensevelissement. Et devant ces deux linges abandonnés, désormais inutiles, Jean vit et il crut. Il a tout de suite compris. Et vous vous souvenez en Jean 11, la semaine qui précède la mort de Jésus, il se passe quelque chose, c'est la résurrection de Lazare. Il est là depuis quelques jours, il sent déjà, et Jésus le ressuscite d'entre les morts. Il sort du tombeau, mais il sort avec ses bandelettes sur le corps. Et Jésus est obligé de dire à ceux qui l'accompagnent, déliez-le et laissez-le aller. Mais Jésus sort, lui, délié, pleinement libéré, parce que son corps n'a plus aucune entrave. Celui de Lazare en avait encore. Au sens symbolique, Lazare devait encore mourir. Jésus, lui, est pleinement ressuscité. Et la dernière phrase est un peu étonnante du texte de Jean, chapitre 20. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Et Jean a déjà noté à plusieurs reprises dans son évangile qu'il a fallu attendre la résurrection pour que les disciples y comprennent les enseignements de Jésus-Christ, qui comprennent que Jésus-Christ devait ressusciter. Et au moment de la purification du temple, lorsque Jésus avait fait, vous savez, un véritable scandale, il avait chassé les marchands du temple, et ça avait perturbé terriblement les apôtres. Jean dit, « Lorsque Jésus se leva d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi, et ils crurent à l'Écriture ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. » Et même chose, dans son entrée triomphale à Jérusalem, Jean note, « Au premier moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui arrivait, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent que cela leur avait été écrit à son sujet. » Vous savez, quand on lit les évangiles, quand on lit les paroles de Jésus, il faut être honnête et être franc, on ne parle pas, Jésus ne parle pas clairement qu'il va ressusciter. Ce n'est pas marqué « et je vais ressusciter ». C'est assez imagé. Détruire le temple, et en 3 jours, il le rebâtira. C'est des images dans ce sens-là. Pierre et Jean, ils viennent pas d'avoir tout à coup de se rappeler d'une parole que Jésus-Christ avait dite. Non, tout à coup, ils ont une illumination sur toute la parole qui leur est révélée. Avec la résurrection, quand ils commencent à croire, l'écriture, toute l'écriture, devient claire à leurs yeux. C'est l'ensemble du plan de Dieu qui devient clair à leurs yeux. Et l'évangéliste Luc le dit à propos des disciples d'Emmaüs, lorsqu'ils voient Jésus-Christ, lorsqu'ils reconnaissent Jésus-Christ qui leur apparaît sur le chemin d'Emmaüs, lorsqu'ils se rendent compte que c'est Jésus-Christ, ils ont ouvert les yeux et ils parlent de tout à coup, ils ont reçu l'intelligence des Écritures. Il vit et il crut, c'est ça que cela veut dire. Jusque-là, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus meure et qu'il ressuscite d'entre les morts. C'est parce que Jean a cru que l'Écriture s'est éclairée pour lui. Jusqu'ici, il y a plein de choses de l'Écriture qui étaient restées obscures pour les disciples. Mais parce que tout d'un coup, il donne sa foi dans la résurrection de Jésus-Christ, sans hésiter, un truc fou. Vous vous rendez compte que ce à quoi on croit? On a l'habitude d'en parler et tout ça, enfin, pour nous c'est évident. Mais quand on parle de cela à un collègue de travail, il ouvre des yeux écarquillés en se disant « Mais il est malade !» Ou « C'est un doux rêveur !» Cette foi, elle nous a été donnée, frères et sœurs. L'expression « il fallait » dit cette évidence. Il fallait qu'il croie en la résurrection pour comprendre les Écritures. C'est le seul moyen de comprendre les Écritures. Croire que Jésus-Christ est ressuscité. Saint Anselme disait qu'il ne faut pas comprendre pour croire. Mais il faut croire pour comprendre. Et c'est une preuve pour nous aussi qui lisons l'Écriture à la lumière du tombeau vide de la résurrection. La résurrection nous ouvre les yeux sur l'Ancien Testament, sur le Nouveau Testament. Et il l'a fait pour l'apôtre Jean, il l'a fait pour l'apôtre Pierre, pour les disciples d'Emmaüs, et pour bien d'autres ensuite, et nous vivons nous-mêmes la même expérience. Le tombeau est vide. Et nous n'aurons pas d'autre preuve que le tombeau vide. Pas d'autre preuve d'un Jésus ressuscité que le témoignage des apôtres qui nous a été transmis jusqu'à nos jours à travers l'Écriture. Pas d'autre preuve que celle-là. Parce que, vous savez, quand on parle de la foi, il y a toujours un choix d'accepter ou de refuser la résurrection de Jésus-Christ, d'accepter ou de refuser ce qu'on nous appelle à croire. La résurrection de Jésus-Christ nous invite à croire par la foi, et la foi implique la possibilité de la rejeter. Mais une des raisons qui ouvre mon cœur à la possibilité de croire, c'est qu'au fond de moi, et je crois qu'au fond de nous tous, il y a le désir de cette histoire, que cette histoire de Pâques, elle soit vraie. C'est pour ça qu'on dit Christ est ressuscité. Bon, il est vraiment ressuscité, frères et sœurs. Il est vraiment ressuscité. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée d'éternité. Ah, vous dites, c'est encore une parole de l'Écriture. Mais vous savez, il y a quelque chose de primordial, de primitif dans l'homme qui lui fait espérer que tout ne s'arrête pas avec la mort. Les Égyptiens, d'ailleurs, les croyances animistes et même notre civilisation moderne manifestent cette espérance et cela peut prendre des formes bien différentes. Chez les Égyptiens, ben voilà, on enterrait, on faisait des momies et puis on enterrait les serviteurs avec le pharaon. Et puis à Madagascar, culture animiste, eh bien, on sort les eaux de terre et on leur redonne un nouveau linceul. Et puis, en Occident, on essaie de prolonger la vie au maximum. pas vieillir, cacher le vieillissement à tout prix, et puis cacher la mort. Avant, la mort faisait partie de la vie des gens. Aujourd'hui, le mort, on ne le voit plus. Il est dans le cercueil, et puis on ne l'expose plus, parce que on veut plus que la mort nous embrasse avec ses questions. Au fond, on veut tous croire, parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée d'éternité. Je crois à la résurrection parce que j'ai appris à connaître Dieu, mon Créateur, et je sais que Dieu est amour, et que l'amour qu'il a mis dans mon cœur pour les gens qui ont quitté ce monde, mais qui vivent encore dans ma mémoire, eh ben, c'est ce même amour qu'il a dans le sien. Mais le sien, il est parfait. Alors Dieu permet que sur cette planète des gens meurent, mais je ne peux pas croire qu'ils s'en satisfassent. L'amour divin trouve une voie pour rétablir toute chose, et c'est aujourd'hui dimanche. C'est aujourd'hui un jour de résurrection, frères et sœurs. La résurrection de Jésus-Christ, voilà bouleversement pour cette existence. Pâques, c'est un point de départ extraordinaire. Les gens continuent de mourir autour de nous, et quand cela touche un de nos proches, c'est parfois difficile de trouver immédiatement quelque espérance parce que c'est trop douloureux. Ça semble définitif. Et ça crée un vide immense. Mais pour les disciples, enfermés dans la chambre haute et qui discutaient de ces étranges témoignages qui leur sont racontés par les femmes qui ont vu le tombeau vide, et puis ensuite par Pierre et Jean, en ce dimanche de Pâques, les perspectives ont changé. En fait, rien n'avait changé autour d'eux. Rome occupait toujours la Palestine. La mort et la méchanceté continuaient de régner au dehors, tout doucement. Un sentiment de joie allait naître dans le cœur de ceux qui avaient cru à la résurrection. Un sentiment de joie et un sentiment de paix allaient s'installer au milieu d'eux. Si Dieu a pu faire cela, alors tout est possible. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc la réalité. C'est l'apôtre Paul qui nous dit cela, qui dit ça à l'église de Colosse, mais qui nous l'a dit à nous aujourd'hui. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ. Et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraît Christ, votre vie alors, vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Et on peut être surpris et même dubitatif d'entendre « Frère, vous êtes ressuscité avec le Christ. Vous êtes mort avec le Christ. » Parce que si je suis terre à terre, on est tous là, vous et moi, assis sur des chaises, dans une salle, rue de Bapaume. Et on est bien vivant, c'est-à-dire pas encore mort, et encore moins donc ressuscité. Mais là, je parle terre à terre, parce que notre réalité est tout autre. Il faut croire que les mots n'ont pas le même sens pour Paul que pour nous parfois. Car pour lui, depuis ce fameux matin de Pâques, et surtout depuis qu'il a rencontré Jésus-Christ. Mais tout à coup, cette histoire lui appartient, comme elle nous appartient à nous aussi. Depuis ce fameux matin de Pâques, plus rien n'est comme avant. Plus rien. Christ a renversé sa vie. Il a bouleversé sa vie. Il l'a retournée. Et Paul emploiera l'expression « en Christ ». Dans quasiment toutes ses épîtres, il dit qu'il est ou que nous sommes en Christ. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Être en Christ, ça implique que quand Christ meurt, nous aussi, on meurt. Quand Christ est enseveli dans le tombeau, nous aussi, on est enseveli dans le tombeau. Et quand il ressuscite, nous aussi, on ressuscite avec lui. Nos péchés, nos erreurs, nos fautes sont révélés à la croix. Et Dieu y accroche, et c'est Paul qui nous dit, la malédiction qui était sur nous à la croix. Jésus porte tous nos péchés. Et la croix, quelqu'un disait que c'est le pire de l'homme qui rencontre le meilleur de Dieu. Il faut passer par la croix, frères et sœurs. On ne peut pas faire l'impasse que de mourir avec Jésus-Christ. Quand Jésus est mis au tombeau, c'est nous qui entrons dans la tombe. Nous avons été ensevelis avec lui, par le baptême, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Et ce n'est pas hasard si Vance nous a lu la suite du passage pour le repas du Seigneur concernant le péché. Nous allons lire ce passage. Quand Jésus sort de la tombe, c'est nous aussi qui sortons de la tombe, non pas comme Lazare couvert de bandes, mais comme Christ. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas celle de la terre, nous dit Paul en Colossiens, ce qu'on a lu. Et il ne s'agit pas en fait de choses, je vous en ai parlé il y a quelques dimanches, de choses dont il parle, qu'elles soient en haut ou en bas, hein. Il s'agit d'une conduite de vie, d'une manière de vivre. Rechercher les choses d'en haut, c'est changer de perspective sur nos existences. Et les réalités d'en haut, il les dit dans les versets suivants, c'est la bienveillance, l'humilité, la douceur, la patience, le pardon mutuel. Et les réalités terrestres, eh ben, c'est la débauche, l'impureté, les passions sordides, la cupidité et la convoitise. Et notre vie tout entière, elle est dans ces tensions-là, entre les choses d'en bas et puis entre les choses d'en haut. Entre le fait que, oui, on va mourir, mais en fait, qu'on est vraiment déjà ressuscité et qu'on siège avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est ça, dimanche de Pâques. Nous sommes ressuscités. Et la foi dans la résurrection de Jésus est la même. La foi dans la résurrection de Jésus est la même qui nous permet de croire en notre propre résurrection maintenant, frères et sœurs. C'est la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui nous a ressuscités nous aussi, dit Paul. Et si on continue la lecture, on aurait trouvé cette expression « Vous avez revêtu l'homme nouveau » dans Colossiens. Et un peu plus loin, par-dessus tout, « Revêtez l'amour, c'est le lien parfait. » Vous avez revêtu, revêtir, revêtir. Revêtir, c'est qu'on est déjà habillé. Revêter, c'est qu'il y a encore des choses à faire. C'est ça la tension de nos existences. Il ne s'agit donc pas de vivre une autre vie que la vie ordinaire, mais de vivre autrement notre vie ordinaire. Et sachant que cet autrement, c'est désormais possible, parce que c'est l'Esprit Saint qui nous en rend capables. C'est ce même Esprit qui fait dire à, qui fait croire à Jean quand il voit le linceul, le tombeau vide, il vit et il crut, c'est l'Esprit dans son cœur qui lui dit cela. Et puis plus tard, ils auront une confirmation à la Pentecôte. Le même Paul dira, à peine plus loin dans cette même lettre aux Colossiens, « Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » C'est ce monde-ci qui est promis au royaume. Ce monde-ci, pas celui quand on va mourir. C'est ce monde-ci le royaume de Dieu. Il commence, il est ici. Il ne s'agit pas de mépriser ce monde et puis de vivre comme si tout était pourri et foutu. Non, le royaume est ici, frères et sœurs. C'est la semence du royaume. Et il n'est pas question de dénigrer les réalités terrestres, les souffrances, la mort. C'est 148 morts en France dans l'avion, c'est 148 morts au Kenya, ces injustices. Au contraire, mais c'est à nous de les transfigurer, de leur rendre un autre aspect. C'est dimanche aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Mais voilà, votre vie est cachée avec Christ en Dieu, parce que vous êtes morts, dit Paul. Et nous sommes morts. Et si nous sommes morts, c'est qu'il y a une autre vie. Et celle-ci, elle est véritable, spirituelle, impérissable. Et c'est la vie de Christ en nous. Cette vie, elle est cachée avec Christ. Et un jour, elle paraîtra. J'ai beaucoup parlé, je vais clôturer. Sachez que notre état d'épreuve, il ne durera pas toujours. Christ doit être manifesté en gloire, nous dit Jean. Et recevoir dans cette gloire tous les rachetés qui alors seront semblables à lui parce qu'ils le verront tel qu'il est. Jean dit ça dans sa première lettre au chapitre 3. L'autre message qu'il nous faut entendre à Pâques, c'est qu'il faut attendre que Jésus-Christ paraisse pour ne paraître qu'avec lui. Et ne pas écouter la voix de la vanité qui nous crie de paraître tous les jours dans ce monde. Comme le soleil se lève le matin, arrive le jour où tout œil le verra, et ce jour vient. Et alors si vous dites « Christ est ressuscité », et si vous dites « et nous attendons son retour », alors là, les gens baissent les bras et disent « c'est n'importe quoi ». Non, ça c'est toute notre espérance, frères et sœurs. Et s'il en manque de cette espérance, demandez-la à Dieu. Il y a quelque chose que je ne pourrais pas oublier à Pâques, c'est le repas. Et la bonne nourriture, et la fête en bonne compagnie, avec des amis, avec la famille, avec des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps et qui nous manquent. Non, je ne vous parle pas du repas de tout à l'heure, ou celui que vous avez prévu pour demain. Non, je vous parle du repas qui nous attend là-haut, quand Jésus-Christ va venir nous chercher. Et ce grand banquet qu'il prépare pour nous, avec tous les rachetés, avec ceux qui nous manquent. Notre Seigneur s'est mis en quatre pour nous préparer un formidable festin, frères et sœurs. Et ce sera la fête. Mais ce dont je suis sûr, c'est que ce jour-là, il ne manquera personne. Aucune absence ne nous fera souffrir. On ne contemplera jamais assez le mystère de Pâques dans nos existences. Et peut-être qu'on a passé un peu de temps ce matin là-dessus. Je suis désolé, merci pour votre patience. Mais on n'en verra jamais l'enthousiasme suffisamment qui doit susciter en nous. C'est un travail, vivre Pâques. Et c'est pour ça qu'il y a autant de dimanches dans une année, parce que dimanche, ça nous rappelle toujours la résurrection. À Pâques, tout devient possible. Ah, je vous ai mis ça. C'est un petit message humoristique. You only live once. Vous connaissez ça, YOLO. Hein? You only live once. Est-ce que vous acceptez ce challenge? Moi, j'ai du mal. Parce que, est-ce qu'on vit qu'une seule fois? Est-ce qu'on n'a qu'une seule vie? Et Jésus dit non, je plaisante. Mais c'est un petit peu ça. Le message de Pâques, ça nous sort de notre réalité pour nous plonger dans une autre réalité qui est loin des divertissements, frères et sœurs. Bonne Pâques, joyeuse Pâques. Notre Seigneur est ressuscité.